Le sport sur Radio Okapi, c'est une question de conditions physiques. Imaginez partir de Kinshasa en 800 mètres et débarquer en Mbandaka en canoë-kayak, franchir les forêts de la province orientale en saut en hauteur, décrocher une médaille de bronze à Lubumbashi, traverser le lac Kivu à la nage style papillon et j'en passe. Okapi Sport. Un ensemble de correspondants et une équipe de présentateurs bien en forme pour vous apporter l'information sportive là où vous vous trouvez. Okapi Sport, car la passion du sport est sur Radio Okapi.
Prise en charge médicale et psychologique de femmes vivant avec le VIH/SIDA, Madame Thérèse Omarie, directrice nationale de Femmes Plus, notre invitée ce matin pour en parler. Elle est déjà en ligne. Madame Thérèse Omarie, bonjour.
Monsieur.
Voilà, merci d'avoir répondu à notre invitation avec vous. On va parler de comment s'est fait la prise en charge médicale et la prise en charge psychologique des femmes vivant avec le VIH/SIDA. Nous rappelons le numéro de contact pour les personnes qui viennent de se joindre à nous. Vous pouvez appeler au 081 890 63 94 en RDC. La prise en charge médicale et psychologique des femmes vivant avec le VIH/SIDA pose problème. C'est la plupart de ces femmes n'ont pas accès au traitement antirétroviral, excusez-moi, autre chose, lorsque la communauté apprend qu'une femme est atteinte du VIH/SIDA, elle est victime de la stigmatisation de la part de son entourage. Comment faire face à tout cela? Eh bien, on en parle avec Madame Thérèse Omarie, directrice nationale de Femmes Plus. Dites-nous, Madame, à ces jours, on peut se faire une idée sur la situation du VIH/SIDA chez la femme congolaise?
La situation du VIH/SIDA chez la femme congolaise est restée la même, c'est-à-dire que de plus en plus il y a des femmes qui sont infectées,
oui,
par rapport aux hommes. D'après la dernière projection faite au mois l'année passée, il y a la prévalence du VIH serait autour de 1,1%, mais avec une forte prépondérance auprès de femmes.
Une forte prépondérance auprès des femmes. Et qu'est-ce qui explique que les femmes soient plus infectées? Est-ce que c'est un problème de manque de sensibilisation ou bien peut-être d'une sexualité irresponsable?
Bon, il y a plusieurs causes qui peuvent justifier cette situation.
Oui.
Il y a d'abord la morphologie, la biologie qui nous expose, qui nous rend plus vulnérables par rapport aux hommes.
Oui.
Il y a les aspects biologiques, il y a aussi le problème de l'accès. L'accès et contrôle de l'information, le problème de l'accès et contrôle de l'information, il y a l'accès et contrôle des ressources. Il y a des études, l'étude index, l'étude EDES de 2007, parce que les résultats 2012-2013 ne sont pas encore publiés.
Oui.
Montre qu'il y a plus les femmes qui n'ont pas le même capacité, le niveau d'études que les hommes. Ça les expose, les femmes n'accèdent pas facilement à l'information, surtout à l'information qui les concerne, même à l'accès des services. L'enquête EDES montre qu'il y a plus de 49% de femmes ont accès aux services de soins par leur propre volonté. Il y a plus de 50%, c'est une tierce personne qui décide pour qu'elles assistent ou qu'elles bénéficient des services de santé. Donc plus de 50% de femmes pour aller faire les soins, c'est une tierce qui doit répondre. Ça peut être un mari, ça peut être un cousin, ça peut être un oncle, et ça pour plusieurs raisons. Peut-être qu'elle n'a pas le moyen, peut-être qu'elle n'a pas l'information, tout ça concourt d'une manière globale à ce que la femme soit plus vulnérable, soit à la merci de tous les maux qui se présentent.
Alors maintenant, pour ce qui est du volet de la prise en charge médicale pour les femmes qui développent déjà la maladie, qui développent déjà le VIH/SIDA, comment s'est fait la prise en charge médicale?
La prise en charge médicale pour les femmes vivant avec le VIH est la même pour les hommes. Donc il n'y a pas un protocole spécifique pour les femmes.
Oui.
À moins que les femmes... c'est le même protocole, c'est-à-dire que la personne est détectée VIH, elle part dans un centre de santé, à l'hôpital, on lui fait les examens préliminaires, et si c'est possible, on les met sous traitement. Le problème qu'il y a aujourd'hui, il y a les protocoles qui changent. À un moment donné, on mettait les personnes sous traitement avec les CD4 et 200, 350. Aujourd'hui, l'OMS a encore changé les protocoles. On arrive à 500. Je ne suis pas médecin, sous contrôle des médecins.
Oui.
Donc, les protocoles, ça change. Mais au moins, les femmes accèdent aux ARV d'une manière générale, là où ils sont. Et la situation générale au pays est catastrophique parce que la couverture des ARV est autour de 28%. Donc, il y a plus de 72% des personnes qui n'accèdent pas aux ARV. Et la situation de la femme est encore plus dramatique parce que nous sommes engagés pour une génération sans VIH. Et pour arriver pour une génération sans VIH, ça veut dire que toutes les femmes en âge de procréer, toutes les femmes qui procréent doivent faire des enfants sans VIH. Or, la couverture de la prise en charge de l'élimination de la mère à l'enfant est très faible, c'est autour de 15%. Donc là, la situation est très dramatique parce qu'il y a des femmes avec le VIH qui accouchent mais qui ne bénéficient pas de la prise en charge pour avoir des enfants sans VIH.
Il y a déjà assez de problèmes du côté prise en charge médicale, alors que dire du côté prise en charge psychologique?
Prise en charge psychologique, là encore, le problème devient plus grave parce que ce sont les activités d'accompagnement psychosocial.
Oui.
Ça commence par l'appui psychologique au dépistage. Ça se poursuit dans les activités génératrices de revenus, dans les activités d'accompagnement pour les groupes d'autosupport. Ça s'accompagne avec les activités de ratio alimentaire. Toutes ces activités sont des activités que les partenaires qui appuient la lutte estiment que ce sont des activités à risque parce que c'est difficile à pouvoir le comptabiliser, à pouvoir le justifier, à avoir des pièces. Donc, les grands bailleurs de ces activités d'accompagnement psychosocial sont les partenaires internationaux, c'est les fonds mondiaux, ça a été la Banque mondiale avec le projet MAP,
oui.
et qui a pris fin en 2010-2011. Aujourd'hui, avec le fonds mondial, ce sont des activités très, très difficiles à pouvoir faire passer, mais quand même des activités importantes pour assurer l'observance, la réussite des mises sous traitement.
Voilà, Madame Thérèse Omari, vous êtes directrice nationale de Femmes Plus. Avec vous, on parle de la prise en charge médicale et psychologique des femmes vivant avec le VIH/SIDA. Il y a déjà deux auditrices qui sont en ligne. On va les accueillir tout à l'heure. Nous rappelons également pour des personnes qui veulent intervenir pour poser des questions ou des témoignages par rapport à ces sujets. Nous rappelons le numéro de contact, c'est les 081-890-63-94.
Chaque jour, la fréquence de la paix unit le Congo avec le tour des provinces. Du nord au sud et des grands lacs à la mer, Radio Capi en direct de toutes les provinces. À 8h45, 12h15, 17h20 et 17h50, heure de Kinshasa. Le tour de province, vivez les informations avec les reporters de Radio Capi.
Adrienne Amouyeti nous appelle de Lubumbashi dans la province du Katanga. Rachel Ndundu est à Isiro en province orientale. Adrienne Amouyeti, bonjour.
Bonjour à M. Marcel Ndombo. Bonjour aussi à Mme Thérèse Omari. Premièrement, j'aimerais demander à Mme Thérèse, le programme national de lutte contre le VIH-SIDA et l'ONU-SIDA estime que près de combien de femmes en République démocratique du Congo sont infectées par ce virus. Et la deuxième question, j'aimerais savoir si l'accès aux soins est gratuit. Et enfin, ici chez nous, on remarque que bon nombre de femmes vivant avec le PVV sont vraiment rejetées. Alors, ce que j'aimerais demander à toutes personnes qui ont des femmes qui ont ces virus, de ne pas les rejeter. Le fait d'être infectées ne les prive pas des droits. Nous devons les respecter et les promouvoir. Alors, pour se montrer solidaire envers les femmes vivant avec le PVV, qu'est-ce qu'il nous faut? Merci, messieurs.
Et merci à vous également, Adrienne Amouyeti. Vous avez appelé de Lubumbashi dans le Katanga. Rachel Ndundu, vous êtes à Isiro, en province orientale. Bonjour, Rachel.
Allô, bonjour.
Alors, on vous écoute, Rachel. Quelle est votre question sur ce sujet, sur la prise en charge médicale des femmes vivant avec le VIH/SIDA? Oui, allez-y.
Oui, merci. Je suis aussi l'invité. Alors, j'ai deux petites questions. J'aimerais savoir comment s'est fait la prise en charge des femmes atteintes du VIH/SIDA. Est-ce que c'est sur les plans sanitaires ou alimentaires? Et la deuxième question, c'est savoir, des fois on dit que si un enfant vient d'une mère qui est déjà atteinte du VIH/SIDA, la femme ne totalise pas 7 ans avant de mourir. J'aimerais savoir si c'était vrai ou c'est dit à quoi aussi.
Merci à Rachel Ndundu depuis Siro en province orientale. Thérèse Omari, directrice nationale des Femmes Plus, on revient à vous. Vous avez suivi d'abord cette question d'Adriana Mouyeti qui demandait c'est que vous reveniez sur le taux d'infection de femmes par rapport au VIH/SIDA et puis elle a cherché à savoir si l'accès aux soins sont gratuits et puis elle voulait également que vous commentiez par rapport à la stigmatisation, hein, quels conseils pourriez-vous donner à toutes ces personnes qui rejettent, hein, notamment les femmes qui vivent avec le VIH/SIDA, Thérèse Omari.
Merci beaucoup à nos deux amis de l'intérêt sur la question. En ce qui concerne le nombre de femmes vivant avec le VIH, tout ce que je sais, il y a une forte pondérance des femmes par rapport aux hommes. Oui. Mais je veux pas parler de n'importe quoi. Je veux donner ce qui est écrit dans les documents normatifs du PNLS.
Oui.
Parce qu'il a parlé du PNLS. Dans le plan de l'élimination de la transmission VIH de la mère à l'enfant, c'est-à-dire le plan qui traduit la volonté du président de la République à amener la RDC à une génération sans VIH, élaboré en 2011, dans ce plan, il y a donc ce qui est écrit, oui. Les rapports épidémiologiques PNLS 2011, la prévalence dans ces rapports est de 2,59% au sein de la population générale, c'est-à-dire toute couche confondue, les populations à risque et toute la population générale confondue. Et de cette population générale, les personnes vivant avec les VIH est estimée à 978 458 personnes, dont 565 155 femmes. Donc 565 155 femmes et 168 384 enfants de moins de 15 ans. Les sexes ratios, c'est-à-dire les rapports hommes-femmes, le sexe ratio est de 2 femmes infectées pour un homme. Et parmi les personnes vivant avec les VIH, il y a au moins plus de 300 000 adultes. Et plus de 100 000 enfants de moins de 15 ans qui ont besoin de traitement. Ça, c'est le premier volet de sa question. L'autre volet, c'est en ce qui concerne la gratuité du traitement. Effectivement, le traitement est gratuit dans le texte. Il y a il y a la loi portant protection des personnes vivant avec le VIH, promulguée en 2008, je crois le 14 juillet 2008, qui prend la gratuité. Seulement, le contenu de cette gratuité n'est pas explicite. Jusqu'ici, la gratuité s'arrête aux médicaments qui sont donnés par les partenaires internationaux. Donc, le gouvernement congolais n'achète pas encore les ARV pour les personnes vivant avec le VIH. La suite des traitements, les traitements, ce n'est pas seulement la mise sous traitement, c'est-à-dire ce n'est pas seulement l'octroi des médicaments, oui. Mais le suivi biologique qui s'en suit. Il y a tout l'accompagnement psychosocial qui accompagne l'observance des traitements. Donc, tout cela n'est pas pris en charge. Le suivi biologique est payé par les PVV elles-mêmes. Et en fait, quand on fait la stigmatisation, elle est forte parce qu'aujourd'hui, on ne parle plus des anecdotes, c'est-à-dire il y a quelqu'un qu'on a chassé par-ci, qu'on a eu, sur laquelle on a eu par-là. Aujourd'hui, il y a des évidences. Il y a une étude, en fait, un des stigmas, c'est en 2012, qui est des indicateurs comparatifs par rapport à d'autres pays, c'est la stigmatisation dont sont victimes les personnes avec le VIH. Et il s'avère qu'en RDC, les personnes avec le VIH sont stigmatisées, surtout dans nos milieux sociaux, dans les églises, dans nos familles, dans les milieux hospitaliers. Et qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est-à-dire nous devons changer de comportement, nous devons les accepter, enlever les préjugés, que le VIH se transmet par les accouchements, tout ça, ce n'est pas ça qui fait qu'il y ait contamination du VIH. Les voies pour avoir le VIH sont connues, sont assez connues. Donc, comme vous êtes là, si vous avez des informations assez, soyez un ambassadeur de lutte contre la stigmatisation dans votre milieu. Voilà mon conseil.
Voilà, merci. Par rapport à ces conseils, on va poursuivre avec Rachel Ndundu qui avait cherché à savoir si la prise en charge médicale concernait également le côté alimentaire et qui avait également posé la question de savoir si une femme qui est atteinte de VIH/SIDA, lorsqu'elle met au monde un enfant, l'enfant ne pourra pas atteindre 7 ans et il va décéder. Vous allez répondre à tout cela, le temps pour nous d'acquérir d'autres auditeurs. Il y a Doudou Kadima qui appelle de Mbujimayi dans Lucas Oriental et Maître Gaston Gandou qui est ici à Kinshasa. Doudou Kadima, bonjour.
Bonjour Marcel Ngombo Mbala, bonjour aussi à l'invité.
On vous écoute, allez-y, quelle est votre question?
Ok, j'ai deux petites questions à poser à l'invité. La première est de savoir comment cesser la prise en charge des PVV pour les femmes qui vivent au village. Parce que nous constatons qu'au village, vraiment, les femmes souffrent beaucoup pour leur traitement des PVV. Ok, ma deuxième question, bon, je pose à l'invité, est-ce qu'il peut me faire un bilan donc entre les hommes et les femmes qui sont vraiment atteintes de VIH/SIDA en RDC? C'est ça mes deux questions, ma femme Gombobane. Bon, suite des programmes sur la radio.
Voilà, l'invité vient d'en parler il n'y a pas très longtemps par rapport aux chiffres du PDMLS. Il y a ce qui est vrai, il y a des femmes qui sont plus infectées par rapport aux hommes. Bon, de toutes les façons, il va commenter tout à l'heure hein, par rapport à votre question. Et là, nous, merci Doudou, hein, quasiment d'avoir appelé depuis Mbujimayi dans le Cas Oriental. Et là, on va accorder la parole à Maître Gaston Gandou qui appelle de Kinshasa. Maître Gaston, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute.
D'accord. Disons... De plus en plus, nous constatons que nos femmes, hein, les femmes ont tendance à recourir à la prostitution pour nourrir leur famille. Est-ce que madame pouvait nous dire les inconvénients, mais aussi les voies de sortie? Parce qu'il me semble que non, il y a chômage et puis manque d'emploi. Mais aussi, je voulais savoir qu'est-ce que signifie l'éducation sanitaire sur le comportement des gens à l'égard de mais aussi, qu'est-ce qu'il faut faire pour que la stigmatisation puisse diminuer au sein des familles? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça puisse diminuer? Parce que de plus en plus, nous constatons que lorsqu'on vous a ciblé comme un citadin, voilà, vous êtes livré à la mort. Les gens vont vous considérer comme un élément dangereux. Mais je constate aussi que les personnels sanitaires ne sont pas formés. C'est pour cela qu'ils ne prennent même pas à apprendre aux gens comment prendre ces gens-là en charge. Sont là, mais quelques préoccupations. Je veux que la dame puisse m'expliquer un peu.
Merci, Maître Gaston Ngandou. Vous appelez de Kinshasa. On revient à vous, Madame Thérèse Omarie. On commence d'abord avec ces préoccupations de Rachel Ndundu qui avait demandé si la prise en charge médicale, il y avait également le côté alimentaire. Et il y a deux fois de centres où on s'occupe également de l'alimentation des personnes vivant avec le VIH/SIDA.
Oui, merci Rachel pour cette préoccupation. Je crois que je l'ai dit, la prise en charge des personnes avec le VIH, c'est un tout. C'est une prise en charge globale. Nous parlons d'une prise en charge holistique qui doit prendre en compte toutes les dimensions de la personne humaine. C'est-à-dire, il y a l'aspect psychologique, il y a l'aspect médical, il y a l'aspect physiologique, il y a l'aspect alimentaire. Mais dans notre prise en charge de la RDC, dans le protocole de la prise en charge des personnes vivant avec le VIH, l'aspect nutritionnel joue un rôle très important. Il y a une étude qui a été réalisée par le PAM, par le Programme alimentaire mondial et le PNLS, qui a montré que les personnes avec le VIH sont vraiment très dépendantes et que la ratio alimentaire, l'aspect alimentaire joue un rôle très important dans l'observance au traitement ou dans la prise en charge ou dans la prise des médicaments. Ça, c'est dans les protocoles. Tous les documents normatifs, c'est reconnu. Pronanut y a travaillé dans ce sens-là. Mais seulement, comme je viens de le dire, les pays, les gouvernements ne donnent pas un paquet gratuit pour l'appui alimentaire au bénéfice des personnes vivant avec le VIH/SIDA dans notre pays. C'est dans les protocoles, c'est dans les documents normatifs, c'est recommandé. Mais il n'y a pas les moyens qui accompagnent cette politique de bonne volonté affichée dans les documents normatifs.
Et quels sont les risques liés par rapport à un enfant qui naît d'une femme
Oui, ce que je voulais dire. Mais... Quand on dit qu'un enfant né VIH ne peut pas vivre jusqu'à 7 ans, ça ce sont les histoires qui ont accompagné l'avènement du VIH.
Oui.
Parce qu'il n'y avait pas de dispositions prises, on ne savait pas. Mais aujourd'hui, quand un enfant, une femme vivant avec le VIH, comme le monde est engagé pour une génération sans VIH, si toutes les dispositions sont prises, c'est-à-dire la femme vivant avec le VIH va vers le centre où il y a la prise en charge paie-te-main, toutes les dispositions vont l'accompagner pour qu'il fasse son enfant en bonne santé et que l'enfant soit sain et puisse grandir comme tout autre enfant. Le corps médical, la maternité vont prendre toutes les dispositions à la naissance et même en agrandissant, par exemple, une femme vivant avec le VIH, on prend l'allaitement exclusif au sein pendant les 6 mois. Donc, on ne doit pas prendre autre chose que le lait maternel. Ou s'il ne veut pas prendre le lait maternel, on le met exclusivement au biberon. Et tout ça, ça a des principes, ça a des conséquences à suivre toute décision humaine. Donc, il n'y a plus de problème que l'enfant qui naît d'une femme séropositive a une vie échelonnée, quoi, fixée d'avance. Non, la vie d'un enfant issu d'une femme vivant avec le VIH et la vie de toute personne. C'est-à-dire, le dernier sort est entre les mains de l'Éternel. Donc, ce n'est pas au médecin, ce n'est pas, il y a pu avoir des calculs, mais ces calculs, c'est comme toute probabilité qui s'est fait autour d'un malade. Mais il n'y a plus des annonces fichées pour dire c'est ce qui doit être arrivé, c'est pas ça. Par rapport au maître Gaston, je crois,
oui.
Il a parlé que prostitution, il y a les femmes qui se prostituent pour avoir et que ça les amène au VIH. Ça aussi, ce sont des discours parce que les études montrent que les femmes prostituées, on ne les appelle même plus les femmes prostituées, on parle des professionnels de sexe.
Oui.
Parce que les professionnels de sexe, leurs clients, c'est vous l'animateur, c'est maître Gaston, ce sont les hommes, des femmes mariées. Donc on parle plus de prostituées ou de la prostitution, pas des professionnels de sexe, parce que les professionnels de sexe, leur mari ou leur partenaire se retrouvent dans la population générale. Et ces professionnels de sexe, comme dans toute profession, ils prennent des précautions. Ce sont des femmes averties qui utilisent les préservatifs. Vous pouvez interviewer à Kinshasa, les vrais professionnels de sexe, ils ont un tarif pour le préservatif, un tarif pour les sans préservatifs. Et quand elles vont sans préservatif, elles savent qu'elles ont couru un risque. Et le lendemain, elles vont prendre un traitement, quoi, pour les prévenir, parce que c'est comme un infirmier qui s'est blessé. Il s'est dit que j'ai couru un risque, et toutes ces dispositions, nos enfants, nos sœurs, que nous croyons être des saints qui sont avec nous, ne le font pas. Mais elle sait que j'ai couru un risque parce que je suis sortie avec X. Je l'ai fait pour gagner ma vie, je l'ai fait pour nourrir mes enfants, je l'ai fait parce que je manque. Voilà ce que je dois prendre comme comportement en revanche pour me prévenir.
Voilà. Ouais, Madame Thérèse, on revient à vous, hein, vous êtes encore là avec nous. Le temps pour nous d'accueillir deux auditeurs, il y a Christ Molombia qui appelle de Mandaka, dans la province de l'Équateur, et Gaston Louounou qui est à Kinshasa, pour ceux qui veulent également intervenir. En tout cas, le numéro d'appel, c'est les 081-890-63-94.
Votre connexion internet est trop lente? Radio Okapi.net vous propose un service gratuit. Les alertes mail. Toute l'actualité de la RDC, le sport, la politique, l'économie, la culture et les offres d'emploi. Faites votre choix, vous recevrez chaque soir les infos dans votre boîte mail. Les alertes mail, c'est gratuit. Radio Okapi.net à votre service.
Bonjour Chris Molombien, vous appelez de Mandaka dans la province de l'Équateur. Quelle est votre question?
Bonjour, je commence d'abord par saluer tous les auditeurs de la radio Capi et louer votre initiative élogieuse. Ma question est la suivante.
Allez-y.
En plus que vous avez parlé de la prise en charge, il importe au plus haut point qu'il y ait au préalable des femmes qui se présentent volontiers. J'aimerais demander à l'invité, quel est cet aiguillon que vous utilisez pour stimuler les femmes à se présenter volontiers, à se faire dépister? Parce qu'il y a certaines femmes qui ont honte de faire savoir qu'elles sont atteintes du VIH. Ce n'est pas du tout facile. Ça, c'est la première préoccupation.
Oui.
Et la seconde est la suivante. Comment se fait-il? Comment parvient-il, donc, le médecin à épargner l'enfant qui est au sein du ventre et de sa mère du VIH? Est-il possible, par quel mécanisme, parce que moi je ne suis pas médecin, je n'en sais rien, j'aimerais savoir à l'occasion de cette émission, comment est-il possible que l'enfant continue dans le ventre de sa mère, qui naît avec l'embryon, les relations avec sa mère, ne puisse pas être
merci. Atteint. Ouais, merci Chris, on a compris votre deuxième question. Merci en tout cas d'avoir appelé de Mbandaka dans la province de l'Équateur. Gaston Lehounou, vous êtes à Kinshasa. Bonjour Gaston.
Bonjour monsieur le journaliste.
On vous écoute.
Oui, bonjour d'abord à Dédé et bonjour à vous-même. Ma question est celle de savoir la prise en charge selon la nutrition, comme venait de le dire madame.
Mais Gaston, vous avez radio allumée à côté de vous. Vous voulez bien le teindre, comme ça on va bien vous suivre. Éteignez-les rapidement, soyez gentils, allez-y, et puis posez votre question.
Ok, je vais le faire rapidement. Ma question est celle de savoir, la prise en charge selon la nutrition respecte-t-elle une certaine norme, ou bien ça se passe seulement selon le consentement du prestataire? C'est ça ma question.
La prise en charge, j'ai pas compris.
La prise en charge selon la nutrition, comme venait de l'évoquer notre invité.
Ah, d'accord.
C'est fait selon le respect des normes ou bien ça s'est fait seulement selon le consentement des prestataires?
Merci à Gaston Lehounou depuis Kinshasa. Avant de donner la parole à Madame Thérèse Omari, qui est directrice nationale des Femmes Plus, nous allons accueillir Biri Franklin Luchak qui va nous faire découvrir quelques réactions qui nous sont parvenues sur la page Facebook. Bonjour Biri.
Bonjour Marcel, bonjour à tous. Alors il y a beaucoup de réactions qui tombent sur notre page Facebook. Il y a par exemple Anelka Emmanuel Amayo qui nous écrit depuis Siro et nous dit l'État congolais ne doit pas seulement s'occuper des personnes qui sont en bonne santé, mais surtout des personnes malades vivant avec VIH-SIDA. Et nous qui vivons avec ces personnes, nous devons jouer le rôle de psychologue pour aider ces malades à survivre au lieu de les abandonner. Moïse Emedi, depuis Kindou, dit pour une bonne prise en charge médicale des PVV, le gouvernement doit prendre ses responsabilités en main et l'entourage de ces personnes doit savoir qu'être PVV, ce n'est pas la fin de la vie, parce que on constate qu'à Kindou, s'il y a un PVV dans une avenue ou dans un quartier, l'entourage en parle partout aussi. Les personnes chargées de l'encadrement des PVV informent presque partout et ce qui n'est pas bon pour eux. Cédric Liona, il est là, de Mbandaka, dit que la prise en charge des femmes en VIH n'est pas très bonne parce que les encadreurs n'ont pas l'esprit de discrétion. Quand une femme est allée prendre les antirétroviraux, on se moque de cette femme et même les encadreurs peuvent transférer toutes les informations dans leur milieu de résidence. C'est vraiment ridicule car les droits des personnes vivant avec VIH-SIDA ne sont pas respectés à Mbandaka. Emmanuel Nzama, depuis Kikwit, nous dit, demande pratiquement ce qu'on peut, les signes d'une personne vivant avec les VIH-SIDA. Idrissa Akiba Baleke de Bukavu dit que le gouvernement doit prendre en charge en priorité les femmes qui ont le VIH-SIDA et les communautés violent les droits de la femme parce que les SIDA, ce n'est pas la fin du monde. Enfin, Albert Okoko dit ceci, ce n'est pas seulement la femme et c'est toute personne vivant avec le VIH-SIDA qui doit être bien prise en charge.
Voilà, merci à toi Berry Franklin Luchaka, merci également à toutes les personnes qui ont réagi sur notre page Facebook. Alors, on revient à vous, Madame Thérèse Omari, vous avez suivi ces commentaires, ces avis de ceux qui ont réagi sur notre page Facebook, mais également, il y avait ces questions de Chris Molombia, également de Doudou Kadima. On va commencer rapidement avec Doudou qui avait cherché à savoir comment la prise en charge s'est fait, la prise en charge médicale s'est faite en milieu rural.
Bon, la prise en charge, comment elle s'est faite en milieu rural, je dirais, à ma connaissance, le milieu rural est le seul pour compte.
Oh là là.
Beaucoup des activités sont concentrées dans le centre-ville. Même ici à Kinshasa, si vous allez dans les communes périphériques, les communes périphériques ne sont pas assez servies comme le centre-ville. Or, de plus en plus, il y a une forte liaison entre le milieu rural et l'infection à VIH-SIDA. Donc, c'est une des zones prioritaires qui demande des interventions. Et ça, c'est une interpellation au gouvernement de pouvoir couvrir tous les territoires et tous les territoires, en fait, de rendre les services à tout le monde. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent peut-être l'expliquer, mais ça ne justifie pas. il y a les infrastructures routières,
oui.
il y a beaucoup de choses, il y a les médecins qui ne veulent pas aller à l'intérieur parce que c'est considéré comme un mouroir. Il y a autant de problèmes que nous tous Congolais nous pouvons imaginer.
Et il y a Chris Molombia qui voulait savoir comment c'est, par rapport au dépistage, comment ça se fait. Est-ce que vous arrivez à amener beaucoup de femmes à se faire dépister volontairement?
Oui, les femmes ou les hommes se passent par le volontariat.
Oui.
Il y a des formations qui sont faites d'abord pour amener les conseillers à pouvoir un test presque technique. En plus, comme organisation pionnière de l'accompagnement des femmes avec les VIH, ce qui a été notre force est que nous avions des membres vivant avec les VIH qui connaissaient leur état et par le partage de leurs vécu, ça convainquait les autres aussi, elles tiennent debout, parce que moi aussi je peux tenir.
Oui.
Les femmes qui se sont tenues à 20 ans, en 94, ça a commencé, il n'y avait pas le dépistage. C'était des signes cliniques. Or, aujourd'hui, on ne peut pas dire telle est la VIH en fonction des signes cliniques. Aujourd'hui, c'est le dépistage qui confirme pour dire que telle est séropositive ou ne l'est pas. Donc, c'est là où je reviens, je prends la question d'une autre personne qui demandait quels sont les signes pour connaître une personne à l'EVS.
Oui.
Je dis, mon frère, on ne parle plus des signes. Tout ce qui peut fixer une personne qui a l'EVS, il faut aller vers les dépistages volontaires qui sont gratuits dans plusieurs centres. Il y a même des dépistages mobiles pour amener quelqu'un à aller vers les personnes pour qu'ils achètent au service de dépistage. Donc la grande motivation, ça a été les témoignages,
oui.
Le partage de vie de celles qui avaient le VIH et qui ont voulu arrêter la propagation à leur niveau pour permettre à d'autres de connaître leur statut sérologique plus tôt, en fait ils accèdent au traitement plus tôt. Et en connaissant son statut sérologique plus tôt, on accède au traitement plus tôt et cela vous donne la chance. Nous disons la chance de pouvoir prolonger ou améliorer votre vie avec le VIH-SIDA. Espère tous les projets de vie que vous aviez à faire et ça me motive à rester en vie.
Donc,
et nous, on dit comment on protège l'enfant, comment l'enfant qui est dans le sein de sa mère peut sortir sans avoir le VIH. Ça, c'est simple. Quand l'enfant est dans le ventre, elle est sous une enveloppe qu'on appelle placenta.
Oui.
Et ça, même pas le VIH, quand une femme est grosse, elle suit les consultations prénatales, on lui donne les médicaments pour que sa maladie à elle, il y a par exemple le palu qui affecte souvent les femmes grosses. On lui donne les médicaments, on évite à ce que la femme grosse ait des maladies graves qui peuvent affaiblir les placentas. Et si les placentas se coupent, et là on dit l'enfant est né d'une maladie dont a souffert sa maman quand elle était grosse.
Oui.
Donc toutes les dispositions sont prises pour éviter que les placentas se déchirent dans les seins de la mère ou se fragilisent, je m'excuse, ça ce sont se fragilisent en fait de pouvoir que le sang de la mère soit en contact avec le sang de l'enfant. Donc, après, quand l'enfant est dans le sein de sa mère, il y a une protection qui ne met pas l'enfant en contact direct avec le sang de la mère.
Voilà.
Et quand il y a l'accouchement, la délivrance, toutes les dispositions sont prises par le corps médical pour que l'enfant ne soit pas en contact avec le sang de sa mère, donc pour l'épargner du VIH-SIDA.
Voilà, on va terminer.
Notre dernière question, c'était par rapport à la prise en charge nutritionnelle.
Tout à fait, exactement.
La prise en charge nutritionnelle suit les normes internationales et les normes nationales, toutes normes. Donc, dans tout domaine, il y a d'abord les règles qui sont au niveau international, et ça descend au niveau national. Donc les normes nationales s'alignent aux normes internationales. Et dans notre pays, l'organe régulateur des normes en ce qui concerne la nutrition, c'est le PRONANUT. Donc pour la prise en charge médicale, pour la prise en charge nutritionnelle de PVVIH, c'est le PRONANUT qui régule cela en collaboration avec les autres programmes impliqués, comme le PNLS.
Voilà, on va s'arrêter par là. Merci Madame Thérèse Marie, vous êtes directrice nationale de Femmes Plus. Merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation pour parler de la prise en charge médicale et psychologique des femmes vivant avec le VIH-SIDA. Merci beaucoup, à la prochaine.
À la prochaine, c'est moi qui vous remercie.